Bonjour, cher frère. Nous y voilà. Vous venez de l'entendre dans le sermon, la saison pré-pascale est arrivée. Il est difficile de croire que nous ne sommes qu'à environ 3 semaines de la Pâque, ce qui est presque hallucinant pour moi, mais nous y sommes. Je voudrais commencer par raconter ma première Pâque, comment je me suis souvenu d'un événement aussi important dans ma vie. La célébration de ma première Pâque. Et nous pouvons tous, si vous avez pu célébrer la Pâque vous-même, ou si vous allez célébrer votre première Pâque cette année, je peux vous assurer que vous vous en souviendrez ou que vous vous en souviendrez à l'avenir, mais je me souviens de la sensation merveilleuse que j'ai ressentie en faisant cela. Pour la première fois, j'ai procédé à un examen de conscience pour nettoyer mon appartement, ou la partie de l'appartement dans laquelle je vivais à l'époque. Mes colocataires, je n'ai pas supprimé leur zone, même si j'ai un peu chevauché et fait la cuisine, mais c'était intéressant de supprimer le levain avec des colocataires à l'université qui remettaient en question chaque petite chose que je faisais à l'époque, mais je me souviens de ce que j'ai ressenti. Je me souviens de l'effet que cela faisait d'aller à la Pâque et d'en sortir, pour la première fois, en se sentant propre. C'était un peu comme un baptême. J'ai ressenti la même sensation, ce même sentiment de propreté, de pureté, en sortant de la Pâque. C'est la même chose que lorsqu'on sort de la cuve baptismale et qu'on reçoit l'imposition des mains. C'est comme si vous étiez enfin pardonné. Vous avez été pardonné pour toutes les choses que vous avez faites. Votre ardoise est propre. Nous pouvons tous nous rappeler ce qu'a été notre première Pâque, mais en même temps, nous pouvons aussi comprendre les émotions qui entrent en jeu et certains aspects de la culpabilité qui peuvent essayer de se mettre en travers. Le but de la Pâque était d'essayer d'éliminer toute la culpabilité que nous avions accumulée. La culpabilité est un sous-produit courant, si je puis m'exprimer ainsi, du processus d'auto-examen, lorsque nous creusons notre vie, que nous nous examinons de plus près et que nous essayons de trouver des domaines dans lesquels nous avons péché, des domaines dans lesquels nous aurions pu faire mieux, des choses que nous avons vues en nous-mêmes et qui nous amènent à ressentir de la culpabilité. Et là encore, la culpabilité est un sous-produit très courant de ce processus d'auto-examen. Tous ceux qui cherchent à améliorer leur vie, tous, peu importe depuis combien de temps vous êtes dans l'Église de Dieu, que ce soit votre première Pâque ou votre 51e Pâque, vous essayez de trouver des domaines où vous pouvez vous améliorer dans votre vie. Et tous ceux qui cherchent à trouver ces domaines d'amélioration rencontreront des domaines dans lesquels ils savent qu'ils ont dérapé. Passez au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, car nous allons aborder le sujet de la culpabilité. Nous commencerons par nous demander ce que c'est. Qu'est-ce que la culpabilité? Nous avons tous entendu parler de la culpabilité dans notre vie. Nous en avons tous fait l'expérience, sans aucun doute. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est, et pourquoi est-ce important pour ces jours de pain sans levain, ou pour le processus d'examen de conscience qui précède les jours de pain sans levain, lorsque notre culpabilité sera complètement éliminée? Qu'est-ce que la culpabilité? Vous serez peut-être surpris de le comprendre ou d'apprendre que la Bible définit précisément la culpabilité. Il vous dit mot pour mot ce qu'est la culpabilité, tout comme il vous dit ce qu'est le péché. Elle donne la définition de toutes sortes de choses. La définition de la foi se trouve dans la Bible. Nous allons lire la définition que Dieu donne de la culpabilité dans le chapitre 3 des Romains. Reprenons au verset 10. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, non, pas un seul. Ce sont quelques-uns des versets que nous lisons avant le baptême. Je les ai marqués en orange dans ma Bible, et ce depuis bien avant mon baptême. C'est l'un des versets que nous utilisons pour aider une personne à comprendre la repentance. Que nous sommes tous pécheurs. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, non, Pas un seul. Il n'y a personne sur terre qui soit juste. Il n'y a personne qui comprenne. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Ils sont tous sortis du chemin. Ils sont tous devenus inutiles. Il n'y a personne qui fasse le bien. Non, pas un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et leur langue est une tromperie. Le poison des aspics est sous leurs lèvres. C'est une image de vous et moi, bien sûr, avant le baptême. Mes frères, chaque fois que nous tombons dans le péché, nous retombons dans ces mêmes choses. Ce n'est pas comme si le fait de recevoir l'Esprit de Dieu éliminait tout d'un coup la nature humaine. Il nous donne la capacité de commencer à nous débarrasser de la nature humaine, la capacité de commencer à vaincre la nature humaine. Mais ces choses sont toujours en nous et nous devons constamment les combattre. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds sont prompts à répandre le sang, la destruction et la misère sont dans leur voie. Leurs pieds sont prompts à répandre le sang, la destruction et la misère sont dans leur voie, et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Dieu dit qu'il a donné sa loi à certaines personnes qui, une fois que l'on connaît la loi, doivent y obéir. Afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier devienne coupable devant Dieu. La loi est donnée pour qu'une fois que l'on sait ce qui est bien et ce qui est mal, selon Dieu et sa parole, les gens ne soient plus innocents. Ils deviennent coupables d'avoir enfreint la loi. Qu'est-ce que la culpabilité ? Qu'est-ce que la culpabilité ? C'est pourquoi, par les œuvres de la loi, nul chair ne sera justifié devant lui. Car c'est par la loi que l'on connaît le péché. La culpabilité est la connaissance du moment où l'on a péché. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Lorsque vous éprouvez de la culpabilité, vous reconnaissez que vous avez enfreint la loi de Dieu. Le fait de savoir et de reconnaître que l'on a péché, c'est-à-dire, encore une fois, que l'on a enfreint la loi de Dieu. La Bible définit donc clairement la culpabilité pour nous. Elle nous dit ce que c'est que d'être coupable. Lorsque nous sommes coupables, il ne s'agit pas d'un simple sentiment amorphe. La culpabilité est un trait définissable, quelque chose dont nous pouvons savoir si nous sommes coupables ou non. La culpabilité est, bien sûr, associée à des sentiments et à des émotions. Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais la culpabilité proprement dite est le simple fait de savoir que l'on a fait quelque chose de mal. Il est fascinant de penser que Christ, qui est parfait, n'a jamais connu la culpabilité. Christ n'a jamais péché. Il n'a donc jamais connu la culpabilité. La culpabilité d'avoir enfreint la loi. Pensez-y. Mais nous pouvons ressentir de la culpabilité, parce que nous l'enfreignons régulièrement. Lorsque nous enfreignons la loi, lorsque nous faisons quelque chose de mal et que nous péchons, nous devenons coupables. Bien que la culpabilité soit définie ici comme la connaissance du péché ou de la violation de la loi, elle est plus large que cela. Nous pouvons nous sentir coupables de ne pas faire quelque chose aussi bien que nous le devrions. Supposons que vous parliez à quelqu'un et que vous lui disiez quelque chose d'une manière qui, avec le recul, vous fait dire « j'aurais aimé lui dire les choses différemment ». Avez-vous vraiment péché ? Avez-vous vraiment enfreint la loi ? Non, pas nécessairement, mais vous pourriez tout de même éprouver une certaine culpabilité pour cela, parce que vous auriez aimé le dire mieux. Il aurait été préférable de le dire différemment. Il y a donc une petite zone grise en ce qui concerne la culpabilité. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Si vous enfreignez la loi, c'est là que la culpabilité commence et s'arrête. La culpabilité peut comporter certaines zones d'ombre où vous souhaiteriez avoir fait quelque chose de mieux ou de différent. Avec le recul, vous vous dites, j'aurais dû m'y prendre autrement. Vous pouvez alors ressentir une certaine culpabilité. Cela ne veut pas dire que vous avez mal agi, mais que vous auriez pu faire mieux. Mais la culpabilité, quelle qu'en soit la forme, peut entraîner toute une série de sentiments qui peuvent être accablants. Passez au psaume 38. Je vais lire un psaume sur David et la culpabilité qui l'accablait. Psaume 38. Reprenez le au premier verset. Le psaume 38 dit ceci: Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère, et ne me poursuis pas dans ton ardeur. Il se présente immédiatement devant Dieu dans la prière et dit: Ne me détruis pas, mon Dieu. Pourquoi David dirait-il cela? Pourquoi David s'adresse-t-il à Dieu pour prier et lui dire: Ne me détruis pas? C'est parce qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Il s'agit d'une prière ou d'un psaume de confession, d'une certaine manière. Il s'agit d'une prière ou d'un psaume de confession, d'une certaine manière, mais c'est lui qui explique toutes les différentes émotions liées à la culpabilité. Rappelez-vous, la culpabilité est juste la connaissance du péché, mais la culpabilité est aussi liée à toutes ces différentes émotions que nous pouvons ressentir. Il poursuit au verset 2 en disant: Car tes flèches s'attachent à moi, et ta main me presse. Voici le premier type d'émotion ou de sentiment qu'il ressent à cause de cette culpabilité. Il n'y a pas d'équilibre dans ma chair, à cause de votre colère, et il n'y a pas de repos. Il n'y a pas non plus de repos. Il se sent agité. Lorsqu'on se sent coupable et qu'on sait qu'on a fait quelque chose de mal, on se sent agité. Peut-être ne pouvez-vous pas dormir à cause de cela. Il dit: Car mes fautes pèsent sur ma tête comme un lourd fardeau, elles sont trop lourdes pour moi. Elles sont trop lourdes pour moi. Avez-vous déjà marché avec un sentiment de culpabilité? C'est un fardeau presque insupportable. Mes plaies puent et se corrompent à cause de ma folie. Avec le recul, on peut se dire: J'ai été fou de faire cela. À quoi pensais-je en faisant cela? Encore une fois, la culpabilité est liée à tous ces différents sentiments et émotions. David dit: Je suis troublé, je suis abattu. Je suis dans le deuil tout le jour, car mes reins sont remplis d'une maladie détestable, et ma chair n'est plus saine. Je suis faible et brisé. J'ai rugi à cause de l'inquiétude de mon cœur. C'est juste que son cœur et son esprit lui disent: Vous avez fait quelque chose de mal, et il n'arrête pas de le harceler. C'est ce que la culpabilité fait à une personne. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes gémissements ne te sont pas cachés. Mon cœur soupire. Il palpite. Mes forces m'abandonnent. La lumière de mes yeux s'est éteinte. Vous savez, lorsque vous portez la culpabilité, l'un des effets est que vous marchez et c'est presque comme si vous ne pouviez pas avoir de joie. Vous ne pouvez pas avoir de lumière dans vos yeux à cause de ce poids que vous portez. Mes aimants et mes amis se tiennent à l'écart de ma douleur. Mes proches sont loin. En passant à 17 ans, car je suis prêt à m'arrêter, à boiter ou à tomber. La culpabilité peut presque vous briser si vous ne l'abordez pas ou ne la gérez pas correctement, et mon chagrin est continuellement devant moi. Le chagrin est un effet massif de la culpabilité. À toi de me secourir, Seigneur, mon salut, conclut le psaume. Bien sûr, la culpabilité suscite des sentiments différents: remords, chagrin, regret, tristesse, frustration, anxiété, découragement. Mais il ne faut pas confondre la culpabilité elle-même avec l'une ou l'autre de ces émotions. Ce ne sont que des émotions qui découlent de la culpabilité. Encore une fois, restons simples. La culpabilité consiste simplement à reconnaître que l'on a commis une erreur, que l'on a fait quelque chose de mal. On pourrait faire des sermons entiers sur les émotions qui en découlent, sur le chagrin, sur le découragement. On pourrait faire des sermons entiers sur toutes ces émotions qui découlent de la culpabilité, mais intéressons-nous à la culpabilité elle-même. Si nous parvenons à résoudre le problème de la culpabilité, toutes ces émotions n'auront plus besoin de faire l'objet de sermons. À bien des égards, ces sermons pourraient être éradiqués, supprimés. Et ces émotions peuvent être abordées si vous comprenez ce qu'est la culpabilité et comment vous en débarrasser. Car je vous garantis, mes frères, qu'à l'aube de cette période précédant la Pâque, nous serons confrontés à la culpabilité. Nous regardons notre vie et nous disons, j'aurais aimé faire ceci différemment. J'aurais aimé faire cela différemment. J'aurais pu mieux gérer cette situation. J'ai péché ici. La question qui se pose maintenant est la suivante. Si nous savons que nous nous sentons coupables ou que nous allons nous sentir coupables, comment pouvons-nous gérer cette culpabilité? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Nous allons y répondre. Comment gérer la culpabilité? Que faisons-nous à ce sujet? Faut-il attendre la Pâque pour être libéré de cette culpabilité? Devons-nous porter cette culpabilité pendant encore un mois ou deux avant la Pâque? Ou pouvons-nous nous débarrasser de cette culpabilité avant même la Pâque? Vous verrez clairement que c'est possible. Nous devrions en fait, mes frères, et je dirais ceci, qui est une chose fascinante à considérer, et nous nous y attacherons. Nous devrions marcher vers la Pâque sans nous sentir coupables. Vous comprendrez pourquoi. Nous allons donc examiner deux raisons majeures, deux façons principales de gérer la culpabilité, et chacune d'entre elles comporte quelques points secondaires. Le premier point important est que nous devons reconnaître la culpabilité. Reconnaître la culpabilité. Vous pouvez écrire cela comme un point principal. Mais il y a deux points secondaires. Nous allons aborder le premier des deux points. Le premier sous-point de la reconnaissance de la culpabilité, nous ne pouvons pas ignorer la culpabilité. Nous ne devons pas ignorer la culpabilité. Imaginez maintenant que vous ayez une relation avec une personne qui n'a jamais, jamais, jamais admis qu'elle se trompait sur quoi que ce soit. Vous êtes peut-être entré en contact, il s'agit d'une personne hypothétique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes de ce type dans la vie, mais elles existent probablement, et elles ne se considèrent jamais, jamais, jamais comme ayant tort dans quelque situation que ce soit. Combien de temps durerait votre relation avec cette personne? Si vous savez que cette personne n'admettra jamais sa faute, qu'elle n'acceptera jamais que votre façon de faire soit meilleure que la sienne, ou que votre façon de faire soit juste et que la sienne soit erronée, comment pouvez-vous poursuivre une relation avec une telle personne? C'est très, très difficile. Vous seriez frustré. Vous les regardez et leur dites, « Allez, soyez honnête avec vous-même. Admettez qu'il y a probablement une meilleure façon de faire les choses, mais ils ne le font pas. Vous n'auriez probablement jamais, votre relation avec eux s'effondrerait à un moment donné, et vous ne voudriez pas être avec eux, parce que vous sauriez que dans n'importe quelle situation, ils penseraient toujours qu'ils ont raison. Ils ne prendraient jamais une position humble et ne diraient pas, vous savez quoi? Peut-être que votre façon de faire est meilleure. Peut-être que votre façon de faire est la bonne. Il en va de même pour les maris et les femmes. Si un mari ou une femme pense toujours avoir raison, cela peut être dangereux dans une relation. Cela peut être dangereux avec des amis. Cela peut être dangereux pour tout lien que vous avez avec d'autres personnes. S'ils pensent qu'ils ont toujours raison, cela nuit à la relation. J'ai trouvé en ligne un poème d'Obden Lash. Il s'intitule « Our Two Husbands ». Un mot pour les maris, et je dois dire qu'il s'agit d'un poème très sage. Le poème dit: il est très court. Le voici. Pour que votre mariage soit comblé, avec amour dans la coupe de l'amour, imaginez que vous avez cette coupe d'amour ici, pour la garder pleine d'amour, pleine d'amour. Pour que votre mariage soit comblé, avec amour dans la coupe de l'amour, lorsque vous avez tort, reconnaissez-le. Lorsque vous avez raison, fermez-la. Dans une relation, à quel point est-il important d'admettre que l'on a tort? Cet homme sait quelque chose de très sage. Dans une relation avec une femme ou un mari, en particulier un mari avec sa femme, chaque fois que vous avez tort, admettez-le. Admettez-le. Lorsque vous avez raison, taisez-vous. Il peut être difficile d'admettre sa culpabilité. Humainement, nous marchons tous, dit la Bible, pensant que toutes les voies de l'homme sont bonnes à ses propres yeux. Naturellement, la nature humaine se regarde, se donne du mou et se dit: vous savez quoi? Vous avez probablement raison dans cette situation. Ils ont probablement tort. C'est ainsi que fonctionne la nature humaine. Il est donc très difficile de lutter contre cette tendance. Lorsque vous caressez un chien ou un chat, en particulier un chat, dans la direction opposée, à contre-courant, cela ne se passe pas bien. Il n'aime pas cela. Il n'aime pas cela. La nature humaine n'aime pas non plus qu'on la caresse à contre-courant. Et dans ce cas, être à contre-courant signifie que vous admettez que vous avez tort. C'est très difficile. C'est inconfortable. Je n'aime pas faire cela. Je n'aime pas admettre que j'ai péché ou fait quelque chose de mal. Parce qu'encore une fois, personne ne se considère naturellement comme mauvais la plupart du temps, mais il est très facile de relever les fautes des autres, n'est-ce pas? Il est facile de dire: eh bien, cette personne se trompe tout le temps, et je vois où sont les défauts de cette personne, mais moi-même, c'est très difficile d'être objectif. Mais c'est la clé. Lorsque nous reconnaissons notre culpabilité, nous devons être objectifs avec nous-mêmes, nous regarder et dire: vous savez quoi? Vous n'êtes pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne fais pas les choses correctement à chaque fois, et je devrais reconnaître où j'ai glissé et péché. Le fait d'en arriver à voir nos péchés pour ce qu'ils sont est donc très important pour surmonter la culpabilité. Je sais que cela semble simple, mais au lieu d'ignorer la culpabilité, d'ignorer où nous avons péché, nous devons l'affronter et y faire face. Nous devons nous approcher et dire: je vois où j'ai péché. Je le vois, je le reconnais, et je ne veux pas m'en détourner et l'ignorer, parce que l'ignorer est une chose horrible à faire. Si nous savons que nous avons péché dans notre cœur, mais que nous continuons à l'ignorer et à l'ignorer et à l'ignorer, c'est dangereux. Savez-vous pourquoi c'est dangereux? Parce que cela peut nous conduire à nous engager sur la voie du péché impardonnable. Si nous continuons à ignorer le péché, nous disons: oh, je préfère ne pas m'en occuper. Je préfère ne pas y penser. Non, je ne vais pas le faire. Cela signifie que nous ne cherchons pas à changer. Et si nous ne cherchons pas à changer, c'est une pente très dangereuse et glissante. Ce point est donc très simple. Reconnaître que nous avons péché. Passer à Luc, chapitre 15. Luc 15. Nous allons lire la parabole du fils prodigue. Et remarquons ici quelque chose de fascinant. Il dit: un homme avait deux fils. Beaucoup d'entre nous connaissent bien cette parabole, et le plus jeune dit à son père: père, donne-moi une part des biens qui me reviennent. Et il leur partagea son pain. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout et partit pour un pays lointain, où il gaspilla ses biens en menant une vie débridée. Il a quitté son père pour aller faire ce qu'il voulait. Comme nous le savons, cela s'est retourné contre lui, mais avant qu'il ne revienne vers son père et, pourrait-on dire, une fois que la culpabilité l'a rattrapé, parce que c'était un homme rongé par la culpabilité à un moment donné, sa culpabilité l'a rattrapé et l'a ramené vers son père. Et nous savons tous ce qui s'est passé à la fin de l'histoire. Il a reçu l'anneau et a eu droit à une fête magnifique. Et l'autre frère s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-il si parfait? Mais vous devez comprendre, lisons toutes les choses terribles qui ont conduit à sa culpabilité. Il a commis une mauvaise action. Il a pris son héritage, pourrait-on dire, et il a fait un long voyage et l'a gaspillé. C'est la première mauvaise chose qui s'est produite. Il a gaspillé sa substance. Il a tout gaspillé en menant une vie débridée. Voyons ce que cette mauvaise action a entraîné. Lorsqu'il eut tout dépensé, il eut une grande famine dans le pays. Dieu l'a vu. C'est une parabole, bien sûr, mais une grande famine s'est installée, et il commença à être dans le besoin. Il a manqué. Bien qu'il ait reçu cet héritage, il a tout gaspillé et il ne lui restait plus rien. Et maintenant, que fait-il? Maintenant, il y a une famine en plus. Il a gaspillé tout son argent et maintenant il y a la famine. Il alla s'attacher à un citoyen de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître des porcs. Il a donc dû commencer à travailler pour quelqu'un d'autre pour commencer à nourrir les porcs. Et il aurait bien voulu se remplir le ventre avec l'écorce que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il s'en est donc passé. Il était juste. Il était dans une situation misérable, sans argent, travaillant pour cet homme qui lui faisait nourrir des cochons toute la journée. Et quand il revint à lui, au verset 17, c'est là que la culpabilité l'a frappé, il ne pouvait plus ignorer la culpabilité. Et c'est là tout l'intérêt de cette partie. Il s'agit de ne pas ignorer la culpabilité. Le fils prodigue n'a pas ignoré la culpabilité. À un moment donné, il est revenu à lui. Il est dit, quand il revint à lui, c'est comme s'il s'était réveillé à sa culpabilité. Il a vu toutes les choses terribles qui se passaient autour de lui et s'est dit, qu'est-ce que je fais? Il s'est libéré de cette ignorance en essayant d'ignorer la culpabilité. Et qu'a-t-il fait? Il dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en suffisance et à revendre? Mon père ne m'a pas fait vivre toutes ces choses terribles, et pourtant, je péris de faim, dit-il. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un des mercenaires. Et son père, bien sûr, l'a repris comme fils et nous connaissons la suite de l'histoire. Mais, mes frères, la culpabilité a rattrapé cet homme, ce fils. Il s'agit d'un point secondaire, mais j'ai entendu un certain nombre d'histoires de jeunes qui quittent l'église et disent à leurs parents qu'ils pourraient être le fils prodigue. J'ai entendu des histoires de personnes qui ont dit cela. Des jeunes ou même des adultes qui partent en disant « Ce n'est pas grave, papa et maman. Je suis peut-être le fils prodigue. Je pourrais revenir. C'est une position dangereuse. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Je demande à tous ceux qui sont plus jeunes ou plus âgés dans l'église, qui peuvent avoir cette mentalité, sachant ce que le fils prodigue a dû endurer, ne serait-il pas plus facile d'apprendre de son exemple plutôt que d'apprendre à la dure? Vous savez, si je sais que la lave est si chaude que si je la touche, ma main brûlera, si je le sais d'après des livres, des preuves scientifiques, en voyant la vapeur s'échapper de la lave, En voyant sa couleur rouge vif ou orange, dois-je alors aller toucher la lave pour prouver que c'est exact? Pour prouver que la lave me brûlera la main et que, pour le reste de ma vie, je n'aurai plus de main? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si je sais ou ai entendu dire que sauter d'un avion sans parachute entraîne une mort certaine, dois-je aller sauter physiquement d'un avion et en faire l'expérience pour pouvoir me prouver que je mourrai si je saute d'un avion? Non, je peux regarder et voir d'autres exemples. Je peux voir les lois de la gravité. Je peux voir que nous atteindrons une vitesse terminale à un moment donné. Nous toucherons le sol et vous mourrez. Je peux regarder des exemples où les parachutes des gens ne se sont pas déclenchés et où ils sont morts. Je n'ai pas besoin d'en faire l'expérience moi-même. C'est là tout l'intérêt de la Bible. Lorsque Dieu donne ses paraboles, en particulier quelque chose comme celle-ci, il dit à tous ceux qui, dans l'Église de Dieu, veulent partir, qu'ils n'ont pas besoin d'en faire l'expérience. Croyez-moi sur parole, si vous partez, les choses deviendront vraiment difficiles pour vous. Cela va devenir difficile parce que Dieu dit aussi dans sa parole que le chemin des transgresseurs est difficile. Alors, quand les gens veulent partir et disent, « Eh bien, je suis peut-être le fils prodigue. Je pourrais revenir. » C'est comme si vous disiez que vous voulez sortir comme le fils prodigue et faire l'expérience, pour vous, d'une version de la famine, d'une version de l'alimentation des porcs, ou quoi que ce soit d'autre. Vous savez, vous n'aurez pas à sortir et à faire ces choses. Il ne s'agira peut-être pas d'une famine, mais vous devrez peut-être subir des épreuves terribles et difficiles. Plutôt que d'en faire l'expérience vous-même, prenez la Bible, prenez les exemples pour ce qu'ils sont et croyez-les. Nous n'avons pas besoin de toucher de la lave brûlante pour savoir qu'elle nous brûlera la main. Bien que cela ne soit pas directement lié au sermon, c'était un point secondaire important que je voulais aborder, puisque nous étions ici dans cette parabole. Il est essentiel que nous en arrivions tous, comme le fils prodigue, à admettre notre culpabilité. Lorsque nous voyons que nous avons fait quelque chose de mal, ne l'ignorons pas. Car si le fils prodigue avait continué à l'ignorer, il se serait enfoncé de plus en plus dans les difficultés de sa vie, et il n'aurait pas été reçu par son père aussi facilement. Il faut donc reconnaître nos erreurs et ne pas ignorer la culpabilité. C'est le premier point secondaire de ce premier point sur la reconnaissance de la culpabilité. La reconnaissance de la culpabilité est le point essentiel. Mais voici le deuxième point, ne laissez pas la culpabilité vous consumer. Vous devez reconnaître la culpabilité, mais lorsque vous la reconnaissez, il y a deux possibilités. Vous pouvez soit ignorer la culpabilité, soit la laisser vous consumer. La culpabilité est une chose puissante, et toutes les émotions qui y sont associées sont très puissantes, et elle peut conduire les gens dans de mauvais endroits s'ils ne font pas attention, s'ils ne savent pas comment gérer la culpabilité. Ils peuvent devenir débilitants, ces sentiments peuvent devenir débilitants si nous ne faisons pas attention. Il y a ce qu'on appelle la culpabilité toxique. Dans la société d'aujourd'hui, on utilise ce terme, la culpabilité toxique. C'est un peu ésotérique, mais voici ce qu'il en est. Qu'est-ce que la culpabilité toxique, d'après counselingdirectory.org? La culpabilité toxique désigne un sentiment de culpabilité intense et persistant qui est disproportionné par rapport à la situation ou aux actions de l'individu. Il s'agit d'une forme de culpabilité qui va au-delà de l'expérience normale et saine du remords d'une faute ou d'une erreur. Dieu dit qu'il est bon que nous nous sentions coupables. Il veut que nous éprouvions de la culpabilité. Encore une fois, c'est tout l'intérêt du premier sous-point ici, c'est de ne pas l'ignorer. Dieu veut que nous ressentions ce malaise. Lorsque nous avons fait quelque chose de mal, il ne veut pas que nous l'ignorions et que nous continuions à essayer de nous sentir bien dans notre vie. Il veut que nous ressentions l'inconfort de savoir que nous avons fait quelque chose de mal, mais nous ne pouvons pas laisser cet inconfort nous submerger. C'est la raison d'être de ce point. Cette culpabilité toxique se manifeste lorsque vous laissez la culpabilité vous envahir et vous submerger. À un moment donné, elle vous submerge. Elle est disproportionnée par rapport à ce que vous avez fait de mal. La culpabilité toxique implique souvent l'auto-culpabilisation et l'auto-punition, même lorsque la personne n'est pas responsable de la situation ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour la corriger. La culpabilité toxique peut prendre la forme d'une culpabilisation excessive ou d'un perfectionnisme. Elle peut aussi être continue ou persistante, si la culpabilité continue de vous accompagner sans que vous puissiez vous en débarrasser, et sans que vous puissiez vous en débarrasser. C'est une forme de culpabilité toxique. L'autopunition, l'image négative de soi, etc., ont un impact sur votre bien-être. Un sentiment de culpabilité qui ne vous permet plus de faire des changements positifs, est un type de culpabilité qui peut vous envahir. Vous vous sentez alors désespéré. Comme si vous vous disiez, peut-être que je ne parviendrai jamais à surmonter ce problème. Dans un certain sens, la culpabilité toxique vous amène à vous considérer non plus comme une personne qui a fait quelque chose de mal, mais comme une mauvaise personne. Voilà ce qu'est la culpabilité toxique. Quand vous vous regardez et que vous vous dites « Je suis une personne horrible, horrible, et je dois complètement. Je ne sais pas si je peux le faire. » La culpabilité toxique, c'est intéressant, parce qu'on peut en trouver des exemples dans la Bible. Judas a connu ce genre de culpabilité. Il a ressenti une culpabilité écrasante après avoir trahi Christ. Vous pouvez vous reporter au chapitre 27 de Matthieu. Matthieu 27, verset 1. Le matin venu, tous les chefs des prêtres, les anciens et le peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Judas, qui avait livré Christ, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces. Il se précipitait, « Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait ?» Et il jeta l'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant, verset 4, « J'ai péché et tout ce que j'ai fait, c'est trahir le sang innocent. » Ils ont dit, « Qu'est-ce que cela représente pour nous? Qu'on s'en occupe. » Il jeta les pièces d'argent dans le temple et s'en alla. Frères et sœurs, cette culpabilité l'a tellement envahi qu'il s'est tué. Il s'est pendu. Reportez-vous au chapitre 1 des Actes des Apôtres. La culpabilité est une chose incroyablement puissante, et il peut être très facile de la laisser prendre trop d'importance dans notre esprit. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons ressentir de la culpabilité, mais nous ne voulons pas qu'elle prenne trop d'importance dans notre esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1. Et nous commencerons très bientôt à voir comment aborder cette question. Acte 1, verset 15. En ce temps-là, Pierre se leva au milieu de ses disciples, et dit, « Le nombre des noms réunis était d'environ 120, hommes frères, il faut que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, que le Saint-Esprit, par la bouche de David, a déjà prononcée sur Judas, qui était le guide de ceux qui avaient pris Jésus. Car il était compté parmi nous, il était l'un des apôtres, et il avait obtenu une part de ce ministère. Cet homme avait acheté un champ avec un salaire d'iniquité. Et, tombant la tête la première, il s'est rompu au milieu, et toutes ses entrailles ont jailli. Les habitants de Jérusalem l'ont su. Tous les habitants de Jérusalem l'ont vu, ou l'ont su, De sorte que ce chant est appelé dans leur langue en Keldema, c'est-à-dire le chant du sang, car il est écrit dans le livre des psaumes, que sa demeure soit dévastée, que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne son évêché. Judas a éprouvé ce type de culpabilité horrible qui l'a tout simplement envahi, et il s'est suicidé à cause de cela. Maintenant, aucun d'entre nous n'est vraiment. J'espère qu'aucun d'entre nous ne se dit « mettons fin à nos jours à cause de la culpabilité ». Ce n'est en aucun cas une position dans laquelle nous voulons ou devrions nous trouver, mais nous pouvons aussi faire des choses négatives pour nous-mêmes. En pensant négativement, nous pourrions nous dire des choses comme « je ne pense pas pouvoir surmonter cela ». Peut-être que nous nous voyons lutter contre un péché pendant la période d'auto-examen, et nous voyons que nous continuons à lutter et que nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. Cette culpabilité répétée, cette culpabilité d'avoir vu ce péché, peut nous amener parfois à dire « je ne pense pas que je puisse surmonter cela, ou je suis un raté, ou même des pensées pires, comme il est inutile d'essayer de surmonter cela maintenant, ou j'en ai assez d'essayer ». Nous ne pouvons jamais nous permettre d'en arriver là. Nous devons toujours nous dire, ce péché peut être surmonté. Je peux tout par Christ, qui me fortifie. Il n'y a rien de trop grand, il n'y a pas de péché trop grand pour que Dieu nous aide à le surmonter. Pierre nous dit de nous décharger de nos soucis sur Dieu, parce qu'il prend soin de nous. Les fardeaux que nous portons, la culpabilité que nous ressentons peuvent être surmontées, quelle que soit la nature de cette culpabilité. Vous savez comment je le sais? Pensez à Pierre. Vous souvenez-vous de Pierre lorsqu'il a renié Christ à 3 reprises? Pourriez-vous imaginer porter cette culpabilité sur vous? Quelle que soit la culpabilité à laquelle vous et moi sommes confrontés dans notre vie, elle n'est rien en comparaison de celle qu'a dû ressentir Pierre, qui a renié Christ 3 fois, pas une, pas deux, mais 3 fois. Et on lui a dit à l'avance, « Tu vas me renier 3 fois. » Imaginez la culpabilité. Il n'y a pas de fardeau que nous puissions porter qui soit aussi puissant que celui que Pierre a dû porter dans le chapitre 13 de Jean. Reprenons le chapitre 13 de Jean, rapidement le verset 36, juste quelques versets ici. Simon Pierre dit au Christ, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre pour le moment, mais vous me suivrez plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour l'amour de toi. » Cela dit, « Je donnerai ma vie. Je vous suivrai jusqu'au bout du monde. » Je ferai tout ce qu'il faut, jusqu'à la mort, dit-il. Jésus lui répondit, veux-tu donner ta vie pour moi? En vérité, je vous le dis, le coq ne chantera pas avant que vous ne m'ayez renié 3 fois. Et c'est arrivé. Imaginez que vous soyez Pierre, que vous entendiez le coq chanter et que vous sachiez que vous avez fait exactement ce que Christ a dit. La culpabilité qui pèserait sur vous. Elle peut être écrasante. Mais contrairement à Judas, Pierre ne s'est pas laissé envahir par la culpabilité, même si c'était l'une des plus grandes choses coupables qu'il aurait pu faire. Vous avez trahi, vous avez donné, vous avez renié Christ 3 fois pour sauver votre peau après avoir dit que vous iriez jusqu'au bout du monde, si vous voulez, et que vous mourriez pour Christ. On peut parler de culpabilité. Mais Pierre ne s'est pas laissé abattre. Pierre a reconnu son péché. Il a dit, « Vous savez quoi? Ce n'est pas nécessairement rapporté dans la Bible, mais vous savez comment nous pouvons savoir que Pierre a continué et a surmonté sa culpabilité? Reportez-vous au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Nous pouvons le voir par ses fruits. Vous savez que Pierre a surmonté sa culpabilité. Il a surmonté la culpabilité qu'il avait, il l'a acceptée. Il s'en est repenti. Il a changé. Il s'est adressé à Dieu à ce sujet. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 14, il est dit, « Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et leur dit, « Hommes de Judée et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci et écoutez mes paroles, car ils ne sont pas ivres comme vous le supposez, puisque nous ne sommes qu'à la troisième heure de ce jour. » Nous savons tous que c'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit de Dieu est descendu et qu'une église du Nouveau Testament a été fondée. Pierre était l'apôtre principal. Il a commencé à citer des passages de Joël et a dit, au verset 22, « Homme d'Israël, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, homme approuvé de Dieu parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, afin que vous le connaissiez vous-même comme ayant été délivré par le conseil déterminé et la prescience de Dieu, vous l'avez prié, par des mains perverses, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir. » Pierre parle avec une audace absolue en tant que chef de l'Église à cette époque. Vous savez qu'il a surmonté sa culpabilité grâce à la façon dont il parlait et à ce qu'il dit. Il ne se laisse pas submerger par le fait qu'il a fait une chose si terrible, annoncée par Christ. Nous ne pouvons pas non plus, mes frères. Chaque fois que nous passons par cette période d'examen de conscience, si nous voyons ces péchés dans nos vies, nous ne devons pas les laisser nous submerger parce que la culpabilité peut le faire et Judas l'a prouvé. Mais soyons comme Pierre, dépassons cela. Et voici comment, mes frères. C'est le deuxième et grand point que nous allons aborder aujourd'hui. Ce point est divisé en deux parties. Le point lui-même est de rechercher le pardon et la repentance. Vous vous souvenez de ce que le premier. Le premier point était la reconnaissance de la culpabilité, c'est le deuxième grand point de la recherche du pardon et de la repentance, et il y a deux parties à cela. La première partie consiste à se confesser à Dieu et aux autres, si nécessaire. Passez au chapitre 32 du psaume. Psaume 32. C'est ainsi que nous commençons à gérer la culpabilité. Une fois que nous avons placé la culpabilité à sa juste place, nous ne l'ignorons pas, et nous ne l'exagérons pas non plus. Maintenant que nous sommes coupables, que faisons-nous de cette culpabilité? Voici ce que nous faisons. C'est très, très simple. Nous devons rechercher le pardon et la repentance, et nous devons confesser ce péché à Dieu. Psaume 32, David savait, encore une fois, c'est un psaume semblable à celui que nous avons lu plus tôt, mais David savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Alors, que lisons-nous ici dans le psaume 32? Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de ruse, et je me suis tu. Quand je me taisais, mes os vieillissaient à force de rugir tout le jour. Ce qu'il veut dire par là, c'est que pendant un certain temps, David n'est pas allé vers Dieu pour confesser ses péchés. Quand j'ai gardé le silence, quand je ne suis pas allé vers toi, sachant que j'avais violé ta loi, mes os ont vieilli à force de rugir tout le jour. Il se sentait coupable. C'est cela la culpabilité. C'est une autre façon de décrire la culpabilité et les émotions qui en découlent. Ainsi, en gardant le silence et en n'allant pas vers Dieu, nous allons continuer à nous sentir coupables. Nous devons donc nous libérer de cette culpabilité. Comment faire? Nous allons vers Dieu, nous confessons nos péchés. Car jour et nuit, verset 4, ta main s'est appesantie sur moi, mon humidité s'est changée en sécheresse d'été. Mon humidité s'est transformée en sécheresse d'été. Peu importe, c'est une sorte de langage poétique, mais c'est comme si vous étiez plein d'eau, et que toute cette eau avait disparu quand il portait ce fardeau de culpabilité. C'est comme s'il s'était transformé en un désert sec et desséché, s'il... Et voici comment il a rectifié la situation. Après avoir gardé le silence, voici ce qu'il a fait. J'ai reconnu mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. Il s'est présenté devant Dieu et a dit, j'ai mal agi, et il a effacé ses péchés. J'ai dit, je confesse mes transgressions au Seigneur, et tu as pardonné l'iniquité de mon péché, s'il... C'est très simple. Lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, il est juste et équitable pour nous pardonner. C'est pourquoi tout homme pieux vous priera au moment où l'on vous trouvera. Il nous dit, voici ce que vous devez faire. Si vous vous sentez coupable de quelque chose, faites ceci, c'est ainsi que tout homme pieux vous priera au moment où il pourra être retrouvé. Dans le déluge des grandes eaux, ils n'approcheront pas de lui. Tu es mon refuge, tu me protèges de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Tu m'entoureras de chants de délivrance, c'est là. Je t'instruirai et je t'enseignerai. C'est David qui parle au nom de Dieu et ainsi de suite. Je vous instruirai et je vous montrerai le chemin que vous devez suivre. Je vous guiderai de mon regard. Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet qui n'ont pas d'intelligence, et dont la bouche doit être retenue par un mors ou une bride, de peur qu'ils ne s'approchent de vous. Les méchants auront beaucoup de chagrin. Savez-vous pourquoi les méchants sont en proie à de nombreux chagrins? Qu'est-ce que la tristesse? Le chagrin est une émotion qui vient de la culpabilité parce que les gens dans le monde ne savent pas comment se libérer de cette culpabilité. Quand j'étais jeune, je savais quand je faisais quelque chose de bien ou de mal. Je n'étais pas dans l'église de Dieu à l'époque, mais je savais distinguer le bien du mal jusqu'à un certain point. Et lorsque je faisais quelque chose de mal, la culpabilité me frappait et je savais que j'étais coupable de certaines choses. Mais je ne savais pas comment y faire face. Je ne savais pas comment la gérer. Et la culpabilité peut causer du chagrin. Ainsi, de nombreuses personnes dans le monde se promènent constamment dans la tristesse parce qu'elles ne savent pas comment gérer leur culpabilité. Le méchant aura beaucoup de chagrin, mais celui qui se confie en l'Éternel sera entouré de miséricorde. Imaginez que vous soyez recouvert, habillé, d'une grande couverture de miséricorde que Dieu nous donne. Il nous dit, « Je serai miséricordieux envers vous si vous confessez simplement vos péchés, si vous admettez ce que vous avez fait de mal, si vous venez à moi. » Ne restez pas assis en silence comme l'a dit David. Réjouissez-vous dans le Seigneur, et soyez dans l'allégresse, vous les justes. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Tant que nous ne reconnaissons pas nos péchés à Dieu, nous gardons le silence comme David. Et frères, la culpabilité ne disparaîtra pas tant que nous garderons le silence. David nous dit qu'au lieu de simplement reconnaître le péché, il faut passer à l'étape suivante. Ne vous contentez pas de reconnaître que vous avez péché. David a reconnu qu'il avait péché, mais il a gardé le silence. Reconnaissez votre péché, ne l'exagérez pas, mais portez-le ensuite devant Dieu. Déchargez-vous de ce fardeau, car c'est ce que vous faites. Lorsque vous le confiez à Dieu, vous dites, « Je ne peux pas supporter ce fardeau, Père, s'il te plaît, enlève-le-moi. » Et faites le pas suivant en confessant votre péché à Dieu et aux autres. Vous savez, c'est aussi un soulagement. Ce n'est pas exactement la même chose, mais j'ajouterai juste ceci, un petit point secondaire. Cela peut être très soulageant si vous savez que vous avez fait quelque chose de mal à quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, confessez votre péché à Dieu. Mais si vous avez fait quelque chose de mal à quelqu'un d'autre, le soulagement que vous éprouverez en allant voir cette personne et en reconnaissant cette faute vous procurera une immense libération. Le fardeau vous aidera également. Cela vous aidera également à vous décharger du fardeau de la culpabilité. Allez voir cette personne. Si vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de mal envers elle et que vous vous sentez coupable de quelque chose, allez la voir. Reconnaissez votre faute. Il ne s'agit donc pas d'un truc catholique où vous allez dans une cabine de confession et confessez vos péchés au prêtre. Non, il s'agit simplement d'aller voir votre frère ou votre sœur à qui vous avez peut-être fait du tort et de le reconnaître. Et ils l'apprécieront beaucoup. Leur confiance en vous sera encore plus grande et restaurée qu'elle ne l'était auparavant parce qu'ils verront que vous avez admis votre faute. Admettre sa faute contribue grandement à construire et à renforcer les relations. Proverbe, chapitre 28. Ce chapitre est fascinant. Écoutez attentivement. Proverbe, chapitre 28. Vous vous souvenez que David a dit qu'il avait gardé le silence? Il savait qu'il avait péché, mais il n'était pas encore allé voir Dieu. Une fois qu'il est allé voir Dieu, il lui a dévoilé ses péchés. C'est alors qu'il s'est senti soulagé. C'est ce que dit le verset 13 du chapitre 28 des Proverbes. Si nous n'allons pas vers Dieu et que nous continuons à garder le silence, voici ce qui se passe. Proverbe 28, 13. Celui qui couvre ses péchés ne prospère pas. En effet, en n'allant pas vers Dieu et en ne reconnaissant pas nos fautes, nous gardons nos péchés couverts. Couverts. Vous savez, nous nous sommes tous couchés hier soir en mettant des couvertures. Imaginez que vos pieds soient des péchés et que vous couvriez vos péchés avec cette grande couverture. Ces péchés sont couverts jusqu'à ce que vous décidiez de les découvrir et d'exposer vos pieds, si je peux utiliser cette analogie. Ce que Dieu nous dit, c'est que lorsque nous nous adressons à lui dans la prière, nous enlevons en fait la couverture. Nous dévoilons nos péchés à Dieu. Et voici ce qui est fascinant. Une fois le péché découvert, qu'advient-il des péchés? Proverbe 10, quelques chapitres plus haut, et le verset 12. Je vais lire la deuxième partie. Le verset 12 dit, « La haine excite les querelles, mais l'amour couvre tous les péchés. » Donc, dès que nous découvrons le péché à Dieu, Dieu dit, « D'accord. Je les couvre à nouveau. Découvrez vos péchés à Dieu afin qu'il puisse les couvrir à nouveau. L'amour couvre le péché. » Dieu dit, « Maintenant que vous avez reconnu vos péchés, que vous les avez dévoilés, je vais les couvrir à nouveau. » C'est comme s'ils n'existaient pas. Si nous dévoilons nos péchés à Dieu, il nous pardonnera et les recouvrira. La question suivante est de savoir si vous croyez que vous êtes pardonné. Croyez-vous que vous êtes pardonné ou traînez-vous un sentiment de culpabilité alors que vous vous êtes déchargé de tous vos soucis sur Dieu? Et c'est là le dernier point. Non seulement nous devons confesser nos péchés à Dieu ou à d'autres personnes, si nécessaire, mais confesser nos péchés à Dieu nous permet d'être pardonnés par lui. Nous le savons tous. Nous venons de le voir. Lorsque nous dévoilons nos péchés à Dieu, il les recouvre. Il dit, « Non, vous n'avez plus à vous en préoccuper. Ils sont couverts. » Nous avons donc deux possibilités. Nous pouvons soit couvrir nos péchés nous-mêmes, soit les dévoiler pour que Dieu puisse les couvrir. Lequel préférez-vous? Je préfère le second. Une fois que nos péchés ont été pardonnés, que nous les avons exposés à Dieu et qu'il nous en a débarrassés, la dernière étape, qui peut être très difficile, consiste à se pardonner à soi-même. C'est le dernier point, le dernier sous-point. Ce n'est pas forcément facile à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Si nous maintenons la culpabilité, même après avoir cherché le pardon de Dieu et la repentance, parce que théoriquement, frère, Une fois que nous sommes allés à Dieu et que nous lui avons dévoilé nos péchés, c'est là que la culpabilité devrait tout simplement disparaître. Mais pour certaines personnes, cela va plus loin. Ce n'est pas aussi simple. Certaines personnes peuvent comprendre que Dieu leur a pardonné, qu'elles se sont déjà ouvertes à Dieu et ont été pardonnées par Dieu pour ses péchés, mais elles ne peuvent tout simplement pas se pardonner à elles-mêmes pour ce qu'elles ont fait. Si nous continuons à nous sentir coupables après avoir cherché le pardon et la repentance de Dieu, nous sommes en fait coupables d'un autre péché. Donc, si nous sommes déjà allés vers Dieu et que nous avons été libérés de cette culpabilité, mais que nous continuons à nous sentir coupables, nous sommes maintenant entrés dans une autre arène. Nous faisons l'expérience d'un autre type de péché, beaucoup plus subtil et dangereux. Si nous agissons de la sorte, nous disons en fait, « Je sais que Dieu peut me pardonner, mais ce péché est trop grand, trop massif, trop important pour que je puisse me pardonner à moi-même. » Et ce n'est pas une bonne position, mes frères. Le fait de nous tenir à une norme de pardon inutilement plus élevée que celle fixée par Dieu peut conduire à l'autosatisfaction. C'est le péché dangereux dont je parlais. Passez au chapitre 6 de Michée. Michée 6. Nous ne lirons qu'un seul verset, le 8e. Michée 6, 8. Il t'a montré, ô homme, ce qui est bon et ce que le Seigneur exige de toi, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu, ce qui, en hébreu, signifie « s'humilier pour marcher avec Dieu ». Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la vie, mes frères, à cause de l'autosatisfaction, nous marchons vers le haut. Les normes de Dieu sont vraiment en bas. Dieu marche à ce niveau, mais nous marchons souvent dans notre esprit et dans notre vie à ce niveau. Dieu dit que nous devons nous humilier pour marcher avec lui. Nous pensons souvent que nous devons nous élever pour marcher avec Dieu parce que Dieu marche en haut et que nous sommes en bas. C'est le contraire. Dieu est en bas. Il dit, « Humiliez-vous pour marcher avec moi. » Cela signifie qu'il faut se dégonfler. Comme à l'époque des pains sans levain. Nous sommes ici pour nous dégonfler, nous désenflammer. J'ai entendu un sermon sur la purification physique, mais nous devons aussi nous purifier spirituellement. C'est le but du processus d'examen de conscience. Nous devons donc nous humilier et nous débarrasser de notre suffisance afin de marcher avec Dieu. Dans le domaine de la culpabilité, il peut être facile pour nous de fixer une norme plus élevée en matière de pardon. Je sais que Dieu m'a pardonné. Sa norme de pardon est ici-bas. Mais moi, j'ai des exigences plus élevées en matière de pardon. Je dois vraiment passer par les sereuses pour m'assurer que je suis pardonné de mon péché. Ma norme de pardon est donc plus élevée. Je sais que Dieu m'a pardonné, mais je ne peux pas me pardonner à moi-même. Non, non, non. Nous devons nous humilier pour marcher avec Dieu. Nous devons abaisser notre niveau à bien des égards. Abandonner l'autosatisfaction, admettre que nous étions dans l'autosatisfaction et revenir à la première étape du processus de culpabilité. Admettre qu'en nous culpabilisant inutilement et en nous imposant une norme de pardon inutile, nous avons en fait péché et devons le reconnaître et reprendre le processus, mais ne pas exagérer et ensuite porter ce péché devant Dieu et en demander le pardon. En fait, il faut de l'humilité pour nous pardonner nos péchés passés. Nous devons nous abaisser, nous humilier pour atteindre le niveau de pardon de Dieu. Ce faisant, vous éliminerez tout stress inutile de votre vie. Ecclésiaste 7. Allez à Ecclésiaste 7, au verset 16. Il est dit ceci, Ecclésiaste 7, 16e, « Ne vous faites pas justice pour beaucoup, et ne vous livrez pas à des excès. » Pourquoi se détruire? Si nous plaçons la barre trop haut dans notre esprit pour nous pardonner à nous-mêmes, c'est de l'autosatisfaction. Nous établissons notre propre norme de justice. Lorsque Dieu dit, quoi? Vous me l'avez déjà apporté. J'ai déjà pardonné votre péché. Peu importe la nature du péché. Il peut s'agir de renier Christ trois fois. Cela peut être Paul qui a assassiné les saints. Paul a continué et a pu surmonter ses sentiments de culpabilité pour devenir l'apôtre d'élite des païens, tout comme Pierre a surmonté sa culpabilité. Aucun de nous n'est parfait, frère. Peu importe ce que nous avons fait. Il se peut que nous ayons fait quelque chose de mal, même après le baptême. Il se peut que nous ayons fait quelque chose dont nous nous disons, comment pourrais-je être pardonné? Mais mes frères, le péché est le péché et le péché est le péché est le péché. Il n'y a pas de qualificatif pour dire, si vous avez tué, ou si vous avez avorté, ou si vous avez fait ceci, ou si vous avez forniqué, ou si vous avez eu une relation adultère, ce sont des exemptions à ma règle de pardon. Ce sont tous des péchés mineurs et je les pardonne donc, mais il y a une petite catégorie de péchés vraiment importants qui sont impardonnables. Dieu ne pense pas de cette façon. Tout péché est un péché. Si nous avons mal agi, si nous avons enfreint la loi dans un domaine, nous avons enfreint toute la loi. C'est aussi simple que cela. Du point de vue de Dieu, peu importe ce que vous avez fait, quel est votre péché, tout ce qui compte, c'est que vous alliez vraiment et sincèrement vers lui pour chercher le pardon et la repentance et que vous vouliez changer. C'est ce qui compte. Et si vous croyez que Dieu vous a pardonné, si vous croyez que vous avez reçu la repentance, vous n'avez aucune raison de garder cette culpabilité plus longtemps ou sinon, encore une fois, revenez en arrière, vous tenez une norme plus élevée de pardon pour vous-même, ce qui revient en fin de compte à être trop juste. Et pourquoi s'imposer un fardeau? Il est dit à la fin du verset, au verset 16, « Pourquoi devriez-vous vous détruire ?» En établissant cette norme de justice plus élevée, vous vous détruisez en fait. Vous vous imposez un fardeau inutile. Encore une fois, la culpabilité est le fait de savoir que l'on a enfreint la loi de Dieu. Nous devons accepter cette connaissance et l'utiliser pour nous repentir et changer. Accepter que nous avons fait quelque chose de mal et l'utiliser comme une catapulte pour changer et faire quelque chose de différent. Se repentir. Mais une fois que nous nous sommes repentis, nous ne devrions plus ressentir de culpabilité. La culpabilité doit disparaître après que Dieu nous a accordé le repentir et le pardon. Chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, quelques derniers versets. Hébreux chapitre 9, nous reprendrons au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cet édifice, et ce n'est pas par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang, qu'il est entré une seule fois dans le lieu saint, nous procurant une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une génisse qui asperge les impurs, sanctifie la purification de la chair, à combien plus forte raison le sang du Christ, c'est ce que nous sommes ici pour faire. En période pré-pascale, nous arrivons à la Pâque en ayant discerné le corps du Christ, en ayant discerné le sacrifice du Christ, en ayant compris ce qu'il est, pourquoi il l'a fait et quelle est sa grande importance. Combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Ce sacrifice ne vous a pas seulement purifié du point de vue de Dieu, il doit aussi purifier votre conscience. Lorsque Christ s'est sacrifié et que le péché a été couvert, si nous le reconnaissons devant Dieu, nos péchés sont maintenant couverts grâce au sang versé par Christ, Et cela ne devrait donc pas seulement vous pardonner aux yeux de Dieu, mais aussi à vos propres yeux. Votre conscience doit être débarrassée de ces œuvres mortes. Elles sont mortes. Elles ont disparu. Lorsque quelqu'un meurt, ses pensées périssent, et il entre dans la tombe, et il n'existe plus dans la chair. De même que quelqu'un meurt et n'existe plus humainement, physiquement. Nous devons considérer que les péchés qui ont été couverts par le sang de Jésus-Christ sont morts, disparus. Dès que nous demandons le pardon et que nous nous repentons, ils disparaissent et notre conscience doit le reconnaître également. Toute culpabilité que nous devrions ressentir ou que nous avons ressentie avant d'aller vers Dieu devrait disparaître. C'est pourquoi il est le médiateur du Nouveau Testament, afin que, par sa mort, pour la rédemption des transgressions commises sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse d'un héritage éternel. Le sang versé par Christ ne doit pas seulement nous pardonner aux yeux de Dieu, mais aussi à vos yeux. Si un sentiment de culpabilité persiste au moment de la Pâque, Dieu nous purifie de cette mauvaise conscience. C'est pourquoi je reviens au commentaire que j'ai fait plus tôt dans le message. Frères et sœurs, lorsque nous allons à Dieu dans la prière, lorsque nous nous examinons, nous devrions reconnaître nos péchés à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'attendre la Pâque pour prendre les symboles et ainsi de suite, pour être pardonnés de ses péchés. C'est pour nous aider à nous souvenir du corps et du sang du Christ, et pour, oui, bien sûr, nous sommes pardonnés à ce moment-là. Mais notre culpabilité devrait avoir disparu au moment où nous franchissons les portes de la Pâque. Nous devrions nous concentrer sur le sacrifice du Christ à ce moment-là, sur le fait que c'est par son sang versé et son corps brisé que nous pouvons même être ici et avoir nos péchés pardonnés, mais mes frères, nous n'avons pas besoin d'attendre la Pâque pour nous libérer de cette culpabilité. Nous pouvons aller voir Dieu dès maintenant si nous péchons, si nous avons fait quelque chose de mal, et chercher la repentance et le pardon. Nous n'avons pas besoin de nous y accrocher et purifier notre conscience des œuvres mortes. Nous passons à l'Apocalypse 14 pour un dernier verset. Apocalypse 14. Parlant des 144 000, nous en savons maintenant plus. Le premier verset du chapitre 14 dit ceci, « Je regardais, et voici, un agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de leur père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre. J'entendis la voix des joueurs de harpe qui jouaient de leurs harpes, et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et devant les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ces 144 000 étaient ceux qui ne s'étaient pas souillés avec des femmes, car ils étaient vierges. Ce sont elles qui ont suivi l'agneau partout où il va. Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes, étant les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de fraude, car ils sont irréprochables devant Dieu et devant le trône. Que signifie être irréprochable? Ces 144 000 étaient irréprochables. En d'autres termes, ils étaient sans reproche. On ne pouvait rien leur reprocher. Ils n'étaient pas coupables. Ils ne se sentaient pas coupables de transgressions passées. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont péché, ils sont allés vers Dieu et ont cherché le pardon et la repentance. Et non seulement ils ont pardonné, sachant qu'ils étaient pardonnés par Dieu, mais ils se sont pardonnés à eux-mêmes. Ils pouvaient se tenir là, comme les 144 000, et dire « Je suis sans faute ». Frères et sœurs, nous pouvons faire cela aussi. Vous ne comprenez pas. Nous pouvons aussi le faire maintenant. Nous pouvons nous tenir devant Dieu et dire « Je suis sans faute » si nous reconnaissons simplement nos péchés et les confessons. Les 144 000 n'ont pas seulement cherché le pardon de Dieu, ils se sont pardonnés à eux-mêmes. Si nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes, nous ne pouvons pas être déclarés innocents ou irréprochables. Dieu veut que personne n'entre dans le millénaire, même le reste de l'humanité qui recevra le Saint-Esprit dans le millénaire, il ne veut pas qu'ils se sentent coupables de leurs péchés passés parce qu'il va effacer leur mémoire. Dieu veut que tout le monde se sente sans culpabilité, sans faute, sans reproche. Et encore une fois, nous n'avons pas besoin d'attendre la Pâque, nous pouvons le ressentir dès maintenant. Nous pouvons être pardonnés de nos péchés dès maintenant et toute culpabilité sera effacée. Donc, si nous nous examinons nous-mêmes, il n'y a aucune raison pour que nous arrivions à la Pâque avec un sentiment de culpabilité. Lors de la Pâque, nous devrions nous concentrer sur Christ et son sacrifice, et sur les sentiments de gratitude et de reconnaissance que son sacrifice a apporté le pardon et que l'ensemble a supprimé la culpabilité. Alors, frères, en terminant, libérons-nous de la culpabilité maintenant et soyons mieux préparés que jamais pour la Pâque.